Alors d'abord, merci pour votre invitation. Ça me donne la joie d'être parmi vous pour ces quelques heures, puisque je vous quitterai demain matin, pour laisser la place à Don Mauro, que je connais bien et que je me réjouis de savoir ici avec vous. Et puis dans une semaine, jour pour jour, le mardi donc prochain, je serai sur exactement le même thème avec les prêtres du diocèse de Nantes en France. Donc je fais un peu une répétition et un peu grâce à vous aussi aujourd'hui, puisque les retours et les discussions qui pourront avoir lieu ne pourront que enrichir mon propos la semaine prochaine, et je vous promets que je dirai d'où ça vient, bien sûr. Avant d'entrer en matière, une petite vingtaine de minutes par là, je voudrais donner un petit prolongement à ce que Madame Ruffieux a dit ce matin, en rapportant l'opinion de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre d'entre vous. On aurait pu choisir d'autres intervenants. Oui, c'est tout à fait juste, puisque à Fribourg, on a l'embarras du choix, beaucoup plus qu'ailleurs. Mais je voudrais rebondir, comme on dit maintenant, là-dessus. Vous voyez, j'ai écrit même, hein, ça m'a fait réfléchir. Oui, je le comprends très bien, et je voudrais dire que finalement, l'intervenant, c'est pas si important que ça. Donc ça ne mérite pas qu'on s'y attache et qu'on s'y arrête beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il faut distinguer entre la voix, en latin vox, et la parole, en latin verbum. Jean-Baptiste était la voix, et le Christ était la parole. Et je suis la voix qui crie dans le désert, hein, c'est l'Évangile. Alors que les pères de l'Église l'ont repris comme ça. Jean-Baptiste est la voix et le Christ est la parole. La voix est extérieure, la parole est intérieure. La voix est pour un temps et la parole est pour toujours. Et la voix donc s'efface et la parole demeure. Alors l'important c'est la parole, bien sûr, et moi je ne serai que la voix. Et ce n'est pas de la fausse humilité, hein, c'est exactement la situation actuelle. Mais alors vous pourriez me dire, si l'important c'est la parole, pourquoi y a-t-il une voix ? Ben oui, bien évidemment. Alors même ça, les pères, rassurez-vous, ont répondu à ça. Hein. Le rôle de la voix, donc maintenant ici moi, c'est d'avertir, d'éveiller à la parole. Ce n'est pas d'être la parole. C'est d'avertir, d'éveiller, d'indiquer la direction de la parole, mais ce n'est pas d'être la parole. Et, je le répète, la parole, c'est ça qui est important. Et alors, comment passe-t-on de la voix à la parole, alors ? Eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui, comment dirais-je, permet de passer de la voix à la parole. C'est lui, le fameux maître intérieur chez saint Augustin, hein, qui nous fait capter la parole à l'aide de l'outil ou de l'instrument de la voix. Alors, je ne serai que la voix, rassurez-vous, ce n'est pas si important. Mais en fait, ça, c'est quand même toute ma vocation. Hein. Voilà, mais de n'être que cela. Alors, comme l'a dit Claudien, deux interventions, une rapide, actuellement une vingtaine de minutes environ. Et puis, bien sûr, je me suis trompé de classeur, excusez-moi une seconde, c'est l'autre, évidemment. Et alors, je ne vous conseille pas, ou du moins, vous ferez ce que vous voudrez, mais ne prenez pas de notes, parce que à la fin, je vous donnerai le texte, enfin, à la fin de cette intervention. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, la voix, ça s'entend, la parole, ça s'écoute. Et limitez-vous à entendre pendant une petite vingtaine de minutes, et puis si, pour passer de la voix à la parole, eh bien, il y aura, comment dirais-je, 100 photocopies, 110 photocopies, si vous voulez. Alors, rapidement, pour lancer les choses, la synodalité dans l'Église. si nous sommes là, et pour réfléchir à ce sujet, c'est parce que ce n'est pas seulement une technique pour la prise de décision comme un coach peut la conseiller dans une entreprise commerciale, par exemple, bien sûr. Il s'agit beaucoup plus profondément d'un aspect tout à fait majeur de la vie de l'Église. On n'est pas dans une question de détail, on n'est pas dans une question technique. On rejoint ici la vie profonde de la communauté chrétienne. Et je pars du fait que l'Église est un corps, c'est l'Église comme corps du Christ, hein, 1 Corinthiens 12, c'est le thème majeur biblique qui porte la révélation sur ce qu'est la communauté chrétienne. Thème majeur, pourquoi ? Parce qu'il naît en Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, il est repris aux Romains, il est repris aux Éphésiens, etc. Et il arrive jusqu'à nous. Hein, dernier état, si j'ose dire, le catéchisme de l'Église catholique. Et l'idée majeure de Saint Paul, qui véhicule la révélation ici, c'est que l'Église est un corps dont chacun de nous est membre. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ce n'est pas simplement une image plus ou moins pieuse, c'est fondé très profondément. Hein. Dieu étant créateur et de tout ce qui existe, il a notamment créé le corps humain, le vôtre, le mien, et il a mis sa sagesse là-dedans. Il aurait pu nous faire 4 jambes, 2 ailes, une trompe, que sais-je. Bon, il n'a pas fait comme ça. Bien. Et vous savez que Dieu ne fait pas simplement le bien, il fait toujours le mieux. Bien. Donc il nous a créés, hommes comme femmes, exactement de ce point de vue-là, de la même manière, c'est-à-dire un corps composé de différents membres. Et c'est ce premier livre, qui est le livre de la création, que saint Paul reprend, et saint Paul est un auteur inspiré, donc il le tient de l'Esprit de Dieu, cela, il a dit, ben ça, voyez-vous, ça annonce déjà ce que sera la communauté chrétienne. Corps dont chacun de nous est membre, c'est-à-dire une unité, un corps, qui est fait d'une multiplicité de membres extrêmement divers. Ça, c'est le corps biologique, c'est aussi le corps ecclésial. À la suite de saint Paul, il faut donc se poser deux questions assez liées entre elles, et qui sont centrales dans le mystère de la communauté chrétienne. Qu'est-ce qui fait l'unité de cette multiplicité de membres? Comment ça peut tenir ensemble, ça? Et deuxième question, quelles sont les conséquences de cela pour chaque membre? Le pied, la main, les cheveux, que sais-je. Alors l'unité du corps humain, composée de multiples membres extrêmement différents entre eux, est réalisé par un principe, une cause, un agent, comme vous voulez, extrêmement fort, dans le corps biologique, on appelle ça l'âme. Et la vérification expérimentale est assez facile et rapide à faire. Quand l'âme quitte le corps, ça s'appelle la mort, eh bien, qu'est-ce que devient le corps? Ben, il se désagrège. Il perd son unité, il perd sa vie, et il finit par disparaître en poussière. Alors, ceci a été appliqué à l'Église très profondément. Et c'est une veine en plus très écuménique, parce qu'elle est tout à fait commune aux Grecs et aux Latins. Hein, chez les Latins, c'est saint Augustin, chez les Grecs, c'est saint Jean Chrysostome, par exemple. Mais là, nous avons un bien écuménique extrêmement important. Vous avez le dernier état de cette doctrine dans le catéchisme au numéro 790. Dans le corps Église, le principe d'unité de tous les membres, c'est l'Esprit Saint. D'où saint Jean Chrysostome, saint Augustin disent l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Ce que réalise l'âme dans le corps biologique, ben l'Esprit Saint le fait dans la communauté chrétienne. Il est présent en chacun de nous, et dans le tout, comme l'âme dans le corps humain. L'âme dans le corps humain, elle est tout autant dans le pied que dans l'oreille. Et c'est en étant tout autant présente dans le pied comme dans l'oreille qu'elle tient unie tout ça, bien évidemment. Et c'est l'Esprit Saint qui fait tenir ensemble et de façon profondément une, un corps, tous les membres qui forment un corps. L'Esprit Saint est donc présent dans chaque fidèle, dans le pape, dans l'évêque, dans le prêtre, dans tous les fidèles, également présent. Et c'est pour ça qu'il les unit. Il ne faut pas les chercher ailleurs. Des causes sociologiques, des causes juridiques, ça peut faire un assemblage plus ou moins cohérent. Ça ne suffira pas à faire un corps. Alors la première conséquence de cette unité que donne l'âme dans le corps ou l'Esprit Saint dans l'Église, c'est que les membres sont vivants. Vous voyez, si je prends un couteau et que je sépare mon doigt et que je le mets là, je le sépare du corps. Eh bien, ce ne sera plus un doigt, il est mort et il va se désagréger. Pourquoi ? Parce qu'il est coupé du reste du corps dans lequel est l'âme. Autre conséquence, les membres sont non seulement différents, le pied n'est pas la main, je l'ai dit par exemple, c'est Saint Paul qui le dit, mais aussi... Et grâce à leurs différences, les membres sont en relation mutuelle parce qu'ils sont complémentaires. Et là est le point décisif pour lequel la comparaison biologique du corps humain joue très bien. Les poumons, ils ont pour fonction de capter l'oxygène pour tout le corps et d'extraire le gaz carbonique de tout le corps. Mais les poumons ne pourraient rien faire si le cœur ne leur envoyait pas le sang comme il le fait pour tous les autres membres. Et le cœur ne pourrait rien faire s'il n'était pas oxygéné par les poumons. Les relations ne sont pas, par conséquent, unilatérales, à sens unique. Elles sont réciproques. Continuons avec la comparaison biologique. Le cœur, je viens de le dire, donne et reçoit. Le poumon donne et reçoit, et ainsi de suite. Et c'est une interaction de tous avec tous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un corps biologique, comme le corps ecclésial, est un tout d'une extrême complexité. Alors je résume. La communauté chrétienne, c'est, deux points, et il y a un ordre précis dans ce que je vais dire, c'est, un, l'unité, parce qu'il n'y a pas l'âme, il n'y a plus de corps. Deux, l'extrême diversité, et j'appuie sur extrême. Trois, complémentarité. Quatre, relations réciproques. Voilà, à l'image du corps biologique, ce qu'est le corps ecclésial. Entre d'ailleurs le corps biologique et le corps ecclésial, vous avez le corps social. Ce que je viens de dire, c'est aussi vrai de la Suisse, ou de la France. Chacun dans son ordre biologique, social, ecclésiologique. Ce n'est pas la même réalité. Mais ces réalités sont des images les unes par rapport des autres. Et derrière cela, il y a le Dieu créateur. Il y a une cohérence. Alors voilà, si vous voulez, ce qu'est la communauté chrétienne et sa vie. Et cela est le fond qui porte toute la démarche synodale, qui explique, qui donne la raison d'être d'une démarche synodale. Vous le savez, d'après le pape François qui l'a initié, cette démarche synodale a deux objectifs. On pourrait appeler un intérieur à la communauté chrétienne et l'autre extérieur à la communauté chrétienne. Premier objectif intérieur, améliorer, voire même réparer ce qu'il conviendrait dans la vie de l'Église. Le corps fonctionne plus ou moins bien, il y a des médecins pour ça, hein. Et là, la médecine, c'est le synode. Et deuxièmement, plutôt à l'extérieur, produire, entre guillemets, bien sûr, du discernement pour la pastorale et la mission, c'est-à-dire l'évangélisation en général. Et je crois qu'il faut s'interroger d'abord sur l'améliorer, voire réparer la vie interne, parce que c'est elle, la vie interne, qui porte la vie externe. Exemple. Dans les remontées de la première consultation synodale dans le diocèse de Lausanne-Genève-Fribourg, d'après le compte-rendu de l'évêché paru en avril dernier, on voit que un des points qui semble émerger de cette première consultation, c'est un gouvernement trop vertical dans la communauté chrétienne, dans le sens du haut vers le bas, entre guillemets, bien sûr, et pas assez du bas vers le haut. Autrement dit, la réciprocité n'est pas bien réglée. Voilà ce qui apparaît. La réciprocité, elle repose sur la complémentarité. Et la complémentarité repose sur la différence, bien sûr. C'est l'interaction de tout et de tous qui produit la vie du corps et qui permet dès lors au corps d'être dans son état sain, S-A-I-N, et donc d'agir. Alors, je vous propose, c'est une simple indication bien sûr, de vous interroger sur les différences qui sont parmi nous et qui sont nombreuses et qui nous rendent complémentaires et par conséquent indiquent des relations réciproques. Je vais vous donner un exemple. Je le prends dans un des actes les plus hauts de la vie de l'Église, qui se passe à peu près une fois tous les 150 ans, une proclamation d'un dogme. 1854, l'Immaculée Conception, 1950, l'Assomption, et depuis, pas encore. Bien. Le prochain dogme, ce sera peut-être la sainteté du Père de la Soujolle, mais enfin, mais pour ça, il faudra que je meure et je ne suis pas pressé encore. Voilà. Alors, comment ça se passe? Je prends 1854, le pape Pie IX, etc. Ce qui est premier, dans cet exemple que je prends, dans la relation, c'est la prédication apostolique. Allez de toutes les nations, faites des disciples, qui vous écoutent, m'écoutent. Bon, les douze, et bien sûr leurs successeurs, que sont les évêques, prêchent la foi, pour la faire naître quand elle n'y est pas, ou pour la nourrir quand elle y est. Ça, c'est la relation première. Le corps apostolique, à qui a été confié l'évangile, le prêche, le diffuse. Et de là naît la communauté chrétienne. C'est la relation fondatrice et la relation continuellement fondatrice. Mais ainsi engendré et nourri, le peuple de Dieu vit de sa foi et possède ce qu'on appelle techniquement le sens de la foi. Et le peuple de Dieu est infaillible dans sa foi. L'Église ne peut pas errer dans la foi. C'est l'épouse fidèle du Christ. Mais cette fidélité de l'Église tout entière à la foi est une fidélité vivante, c'est-à-dire qu'elle est sous la motion de l'Esprit-Saint qui conduit vers la vérité tout entière. Et on voit qu'à certains moments, la communauté chrétienne vit de certaines réalités de foi. Et c'est pourquoi ce qu'on appelle le magistère apostolique, c'est les mêmes personnes que la prédication apostolique, mais ici dans la fonction magistère, c'est maître en latin, ceux qui enseignent. Le magistère apostolique va interroger le peuple de Dieu pour discerner ce qu'il croit et l'exprimer justement au bénéfice de tout le monde. C'est exactement ce que Pie IX a fait. En 1850, il a envoyé une lettre à tous les évêques de la catholicité, non pas pour leur demander leur avis personnel, encore qu'ils pouvaient le donner, bien sûr, mais en lui disant « Mais qu'est-ce qui se fait dans votre Église ? Est-ce que l'Immaculée Conception est honorée dans votre Église ?» Et il ne s'agit pas de pondre un traité sur l'Immaculée Conception. Il s'agit d'interroger la foi des fidèles. Est-ce que Il y a une chapelle consacrée à l'Immaculée Conception dans votre diocèse. Est-ce que vous ou votre prédécesseur avez autorisé une prière à l'Immaculée Conception? Est-ce qu'il y a une statue de l'Immaculée Conception, puis que cette statue est vénérée? Il y a des lumières devant, des cierges devant elle, oui ou non? Voilà comment on interroge la foi de l'Église dans sa manifestation cultuelle ou de piété, n'est-ce pas? Et au retour de cette consultation, intervient le charisme propre du magistère apostolique de discerner ce que l'Église croit déjà et de l'exprimer droitement, d'où la définition dogmatique. Et ce faisant, cette définition dogmatique passe dans la prédication apostolique quotidienne et habituelle. Voyez, il y a ici, dans un acte très haut et très rare, mais l'illustration comme une photographie très précise, de ce qu'est la vie véritablement interne de l'Église, et pas uniquement en matière dogmatique, est-ce que l'Immaculée Conception ou l'Assomption, mais pour les questions, comment dirais-je, dont on a besoin aujourd'hui, des questions d'ordre pratique et pastoral, et qui relèvent de la morale, par conséquent, du bon agir pastoral et missionnaire, et c'est sur ça que le pape François, comme Pie IX en 1850, interroge le peuple de Dieu. Et il interroge aussi grâce aux techniques modernes de communication, qui n'existait pas en 1850. Mais on est, si vous voulez, ici, dans une phase, dans une expression de la vie de la communauté chrétienne qui est hyper traditionnelle. C'est ça la respiration fondamentale, c'est la réciprocité de quoi ? De relations complémentaires parce qu'elles sont très diverses et qu'elles sont tenues dans l'unité. Pour remonter le processus, si vous voulez. Ce schéma de la proclamation dogmatique, c'est exactement le schéma de la démarche synodale initiée par le pape François. Parce qu'à la fin, il discernera dans tout ce qui aura été délibéré par les églises, et il l'exprimera justement. Lui, ça c'est son charisme propre. Alors, voilà, j'ai terminé. Je vous avais dit 20 minutes, ça y est, j'y suis. Voilà la feuille que j'ai faite pour vous. À la fin, je vous propose, interrogeons-nous sur ces différences qui nous rendent complémentaires et donc réciproques. Voilà, c'est un vaste sujet, mais je crois que c'est important de situer la démarche synodale sur ce fondement-là. Je vous remercie.